RFI, grand reportage, Laurent Chaffard.
On parle beaucoup des nouvelles constructions de logements à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Il y a aujourd'hui près d'un demi-million de colons israéliens. Les implantations juives illégales au regard du droit international ne cessent de s'agrandir et grappillent toujours un peu plus les terres des Palestiniens. Il y a 10 jours encore, 2 nouvelles colonies ont été créées dans le nord de la Cisjordanie, non loin de la ville de Naplouse. C'est dans cette région que notre correspondant dans les territoires palestiniens, Nicolas Repère, s'est rendu. À l'occasion de la récolte des olives, un moment fort dans la vie palestinienne, il a pu observer les conséquences de cette expansion israélienne sur les paysans palestiniens. Voici son reportage, Cisjordanie, quand la colonisation menace l'agriculture.
Pour récolter les olives, on utilise une échelle pour attraper les olives qui sont en hauteur. Et pour celles qui se trouvent plus en bas, on peut les prendre juste comme ça. Je crois que je n'ai jamais loupé une récolte. D'habitude, j'y vais avec ma famille, on récolte sur nos champs.
Mohamed Ahmad Hadj, bientôt 60 ans, est l'aîné de ce groupe de travailleurs en pleine récolte des olives. Nous nous trouvons dans le nord de la Cisjordanie. Dans cette région, les champs d'oliviers s'étendent à perte de vue. En ce mois d'octobre, les agriculteurs palestiniens sont tous dans leurs exploitations pour la récolte traditionnelle. Ils sont souvent rejoints par leurs familles et leurs proches qui viennent leur donner un coup de main. Le temps presse afin de recueillir les olives quand elles sont bien mûres.
Avant, quand j'étais jeune, c'était plus facile de récolter les olives. Je n'avais pas mal au dos, je pouvais monter sans crainte dans les arbres. Mais il y a aussi toutes les difficultés liées à la construction de colonies israéliennes. Avant, ici, tout le village pouvait venir. On passait la journée dans les champs, on ne craignait pas d'être attaqué par les colons.
Selon l'administration israélienne, 382 000 colons israéliens sont actuellement répartis sur 121 implantations en Cisjordanie. Un chiffre en constante augmentation depuis 1967 et le début de l'occupation militaire israélienne sur ces zones après sa victoire militaire contre les armées arabes. Même si les colonies en tant que telles ne représentent que 2% de la Cisjordanie, les zones tampons, les bases militaires ou les routes réservées aux Israéliens empêchent les Palestiniens d'accéder à 42% de leur territoire. Un problème pour les paysans palestiniens qui sont les premiers à pâtir de cette situation. Pour faciliter leur travail, certaines ONG internationales interviennent.
Grégoire Bonhomme, je travaille pour l'ONG Première Urgence. Je m'occupe de la coordination des programmes dans le nord de la Cisjordanie.
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où est-ce qu'on se trouve en ce moment? On est sur un champ d'olivier, c'est ça?
Nous sommes dans le champ d'olivier, dans le village de Djaloud. C'est une zone qui est sous coordination. Les zones sous coordination, c'est les zones qui sont inaccessibles pendant une partie de l'année aux Palestiniens. Et nous nous rendons sur place pour voir le travail des fermiers et suivre que tout se passe bien avec eux, qu'ils ne subissent pas d'attaque ou de pression de la part soit des colons, soit de l'armée israélienne.
Nous suivons l'équipe de l'ONG dans le champ. Située à proximité immédiate d'une colonie juive, les habitants ont bénéficié d'une autorisation spéciale afin d'accéder à leurs oliviers. Mais rapidement, le responsable de la sécurité de la colonie, un civil israélien armé, demande aux Palestiniens de quitter la zone. Grégoire Bonhomme veut connaître la situation exacte avant de contacter les autorités israéliennes. Il discute avec Mahmoud Fakri, un paysan palestinien anglophone, propriétaire du terrain en question.
Normalement, nous avons l'accord pour venir ici, donc je peux appeler mon contact israélien. S'il nous donne accès à la zone, on a le droit de venir partout.
Oui, vous pouvez téléphoner. Tous les ans, les colons appellent l'armée en renfort pour nous poser des problèmes et nous empêcher d'être là. Ils menacent de nous arrêter, de nous mettre en prison.
Mais l'armée vient de temps en temps.
Non, pas de temps en temps, juste une fois par an, à cette période.
Une jeep israélienne arrive peu de temps après. À son bord, 4 soldats qui sont rejoints par une autre équipe. Les zones autorisées pour les Palestiniens ne sont connues dans le détail que par les Israéliens. Une situation qui crée incompréhension et mésentente. Un soldat israélien explique en hébreu où peuvent exactement se rendre les Palestiniens aujourd'hui.
Ici, c'est une zone où vous pourrez vous rendre, mais pas cette semaine. Aujourd'hui, dans les jours qui viennent, vous avez le droit d'aller dans cette partie au sud, là. Je vais vous montrer exactement où. Selon mes ordres, vous avez le droit d'être dans ce champ du 19 au 25 octobre. Et dans celui-là, du 25 au 29. Je ne sais pas pour ce côté-ci, il faut que je demande. Pour le reste, on est d'accord ?
Les Palestiniens s'exécutent. Certains qui avaient prévu de travailler leur champ aujourd'hui rentrent chez eux, faute d'accord des Israéliens. Il leur faudra revenir dans quelques jours. Cette incertitude permanente ainsi que la proximité avec les Israéliens favorisent les frictions, voire les heurts frontaux, décrit Grégoire Bonhomme de l'ONG PUAMI, première urgence aide médicale internationale.
On a souvent des tensions, soit parce que les soldats ne connaissent pas forcément les zones de coordination exactes ou les terres de propriété, donc ce qui entraîne toujours des allers-retours avec les quartiers généraux, soit avec des colons qui ne sont pas satisfaits de la présence des Palestiniens trop proches des colonies et qui se sentent menacés et qui attaquent. On se retrouve aussi avec des Palestiniens qui vont être militants et qui vont revendiquer le droit sur leurs terres, ce qui peut créer des tensions. La récolte des olives est toujours une période un peu tendue dans le calendrier palestinien.
Selon une enquête menée par les agences des Nations Unies en Cisjordanie, l'industrie de l'huile d'olive représente un quart du revenu agricole total. Elle fait vivre, toujours selon ces données, pas moins de 100 000 familles. Les restrictions d'accès aux terres ont donc un impact direct sur le niveau de vie des Palestiniens. C'est le cas pour Mahmoud Fakri, le paysan dont une partie des terres est aujourd'hui utilisée par les colons de l'implantation de Kadoumim.
Toutes ces terres que vous voyez, elles sont à moi. Mais un jour, les Israéliens ont construit une route au beau milieu de mon terrain. Ils ont pris toute cette partie qui appartenait à ma famille pour construire la colonie.
Et vous avez aussi des oliviers ?
Oui, bien sûr qu'il y a des oliviers de ce côté-là. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Vous voyez ? Si vous allez de ce côté-là, le garde va peut-être vous tirer dessus, peut-être vous frapper. Tous les ans, il nous complique la vie. Il refuse toujours de me laisser aller là-bas. Je n'ai le droit d'aller qu'ici.
Mahmoud n'a le droit d'accéder à ses terrains que 4 jours cette année. Il ne récoltera que quelques dizaines de kilos d'olives, car son champ, à l'abandon tout le reste du temps, est dans un mauvais état. Un préjudice qu'a bien souvent remarqué Dror Etkes. Ce militant israélien a publié un rapport très détaillé il y a quelques mois sur l'utilisation de l'agriculture comme arme de colonisation par les Israéliens. Selon lui, la surface des terrains cultivés par les colons israéliens a augmenté de 35% ces 15 dernières années.
Si on parle de la présence de colons israéliens en Cisjordanie, leur présence agricole, leur développement agricole est un phénomène majeur. Maintenant, quand on regarde la tendance, en particulier sur les 15 dernières années, on voit très clairement l'expansion de ces terres cultivées par les colons israéliens. Ces terres ont été accaparées à des propriétaires palestiniens. Et il y a d'autres terrains que les fermiers israéliens souhaiteraient obtenir afin d'en profiter.
Mais alors, comment les colons israéliens justifient cet accaparement de terres ? Les responsables de la colonie de Psagot, située à l'est de Ramallah, ont bien voulu nous ouvrir leurs portes. Établie en 1980 dans la région que les Israéliens appellent Binyamin, Psagot, 2000 habitants aujourd'hui, met en avant ses vignes. La visite débute avec un petit film en français sur la production de vin.
Le terroir de la région de Binyamin est parfait. En effet, cette région est située près du désert à 900 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les conditions climatiques y sont donc idéales à la culture des vignes. Un hiver froid et enneigé et des nuits fraîches pendant les vendanges en été.
Des terrains agricoles qui sont établis à près de 75% sur des terres palestiniennes accaparées, selon l'organisation israélienne La Paix maintenant. Miri Maoz Ovadia, la porte-parole des colonies dans la région, nous présente avec fierté les vignes de Psagot. Chaque année, environ 80 000 bouteilles de vin sont produites ici.
Quand on regarde nos racines, ce qui est écrit dans la Bible, on découvre que nos ancêtres qui vivaient dans les villes juives ici produisaient du vin. On a beaucoup de descriptions de ça. Le vin produit ici était même exporté partout dans l'Empire romain. Ces terres étaient dans les mains de nos ancêtres juifs il y a plusieurs milliers d'années. Et donc, quand les fermiers israéliens sont revenus sur leurs terres, ils ont découvert que c'était idéal pour faire pousser du raisin et produire du vin.
Donc pour vous, il y a un lien très concret entre les
les gens qui habitent là et la terre qu'ils occupent.
On se sent très connecté avec cet endroit. On a le sentiment de devenir une nouvelle génération du peuple juif. Ils vivaient ici il y a 3000 ou 2000 ans. Ils faisaient du vin comme nous faisons maintenant. Donc, ce n'est pas un hasard si la production de vin dans la région est si importante. Cette production interagit avec nos racines juives dans cette région.
Des arguments religieux qui reposent exclusivement sur la Bible, ce que dénonce Dror Edkes, le militant israélien.
La colonisation israélienne en Cisjordanie a débuté par des activités agricoles. Ça a commencé à la fin des années 60. Ces colonies qui ont vu le jour à ce moment-là étaient faites de communautés agricoles. Ensuite, les colons, en particulier dans le centre de la Cisjordanie, se sont de plus en plus intéressés aux activités agricoles. Et cette agriculture s'est développée, dans la plupart des cas, sur des terrains qui appartenaient à des Palestiniens. Ces terrains ont été récupérés pour produire de l'olive et du raisin pour le vin.
Tenter de se prémunir de ces annexions, les Palestiniens doivent montrer une volonté d'occuper leur terrain. L'État israélien a repris à son compte une loi qui date de l'époque ottomane. Cette législation implique que tout terrain non cultivé 3 années d'affilée est considéré comme abandonné. Il revient donc à l'État, en l'occurrence l'administration israélienne. Pour lutter contre les conséquences de cette loi, l'ONG PUAMI finance des travailleurs agricoles qui participent aux récoltes, laissant le bénéfice des olives aux propriétaires du terrain. Ce matin, ils sont entre 4 et 5 par parcelle, un mécanisme que décrit Ali Ridouane, responsable de la mise en œuvre des activités de l'ONG.
Nous aidons ces fermiers à accéder à leurs champs afin qu'ils puissent cultiver leurs oliviers. Et nous faisons notre possible pour qu'ils puissent récolter un maximum. On va leur permettre de faire leur récolte dans le temps imparti et on leur met à disposition des ouvriers agricoles qui les aident. Sans cette aide, ils ne pourraient pas s'occuper de leurs champs et ils pourraient perdre leur titre de propriété. Ce serait une grande perte pour eux et pour leurs revenus qu'ils tirent de cette récolte d'olives.
Parce que sinon, ils n'ont pas accès à ces terrains qui leur appartiennent ?
Non, ils n'ont accès que quand nous avons l'accord des Israéliens. Ils n'ont qu'au grand maximum 6 à 10 jours par an. Et c'est vraiment trop peu. Donc on essaie de faire tout ce qu'on peut pour eux.
Mais en découvrant leur champ après plusieurs longs mois, voire même quelques années, les Palestiniens ont parfois de mauvaises surprises. Des champs sont régulièrement brûlés par les colons israéliens, des arbres vandalisés, des récoltes pillées. Des attaques à l'acide contre les oliviers ont même été recensées l'an dernier. Fayez Aziz Asman Zakaha a découvert hier son terrain. Ce père de famille de 40 ans possède environ 9 hectares de terre autour du village d'Awarta. La plupart de ces arbres ont été grignotés des racines jusqu'à environ 1 mètre de hauteur. Il accuse l'exploitation laitière de la colonie d'Itamar qui se trouve juste au-dessus. Selon lui, les colons ont fait traverser leurs vaches dans son champ afin d'abîmer ces arbres.
Avant, quand la zone n'était pas interdite, on pouvait venir régulièrement pour traiter les arbres, en prendre soin. On venait tous les mois, les oliviers étaient en meilleure santé. Mais la dernière fois que je suis venu ici, c'était l'an dernier pour la récolte. Et donc hier, quand je suis arrivé, j'ai découvert que la plupart des arbres étaient cassés. Regardez là, vous voyez, il n'y a plus de branches en bas. Et ce n'est pas la première fois. Les Israéliens ne nous laissent pas travailler dans nos champs, même pendant les périodes où on a le droit d'y être. Les colons viennent sur nos terrains et ni l'armée ni la police ne les en empêchent. Ils nous ont dit de revenir demain, mais je sais que ce sera la même chose.
Selon les chiffres de l'Agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, chaque olivier inutilisable représente une perte de $750. Rien que l'an dernier, ce sont pas moins de 10 700 oliviers qui ont été vandalisés par des colons en Cisjordanie, selon les Nations Unies. Au minimum, un préjudice de $8 millions. Alors que Fayez poursuit la récolte dans son champ, des travailleurs palestiniens sont attaqués par un groupe de jeunes colons. Les adolescents israéliens pénètrent dans le champ palestinien sous les yeux de l'armée israélienne et de la police des frontières de l'État hébreu. Les jeunes jettent des pierres sur les Palestiniens. Il faut une bonne dizaine de minutes avant que les forces de l'ordre n'interviennent pour faire remonter les colons vers leurs habitations et ramener le calme. Fayez, impuissant, se dit exaspéré par cette situation.
Mes terres se trouvent à côté de la colonie appelée Itamar. J'ai le droit d'être là, c'est mon terrain. Alors que les colons, non. Mais ils viennent, et là ils ont envoyé leurs enfants pour nous caillasser. Ils font ça pour une seule raison, ils veulent que nous quittions cet endroit. Et qu'est-ce que font les soldats israéliens? Au lieu de nous protéger et d'intervenir, ils nous demandent de partir.
Il y a une volonté manifeste du gouvernement israélien d'annexer ces terrains, dénonce Dror Redkes. Le militant israélien anti-colonisation accuse les conseils des colonies, mais aussi les dirigeants israéliens qui encouragent ces annexions. Et les conséquences pour l'économie locale sont dramatiques.
L'économie palestinienne est basée en grande partie sur l'agriculture. Eh bien, cette économie subit de larges pertes, cela ne fait aucun doute. À cause des restrictions d'accès, les habitants sont en train de perdre le peu qu'ils avaient. Mais il y a aussi une centaine de communautés palestiniennes qui souffrent de l'expansion des colonies israéliennes. Ce sont les bergers qui utilisaient des zones pour faire paître leur bétail, des coins qui étaient plus rocailleux. Et c'est exactement ce qu'il faut pour les moutons et pour les agneaux.
Et la situation n'est pas prête de s'arranger pour les paysans palestiniens. Malgré les dénonciations internationales, le nombre de colons installés en Cisjordanie a encore augmenté de 2% sur les 6 premiers mois de l'année. Cisjordanie, quand la colonisation menace l'agriculture, un grand reportage de Nicolas Ropper, réalisation Jérémy Besset.
Nicolas Ropper, vous êtes notre correspondant dans les territoires palestiniens. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes l'auteur de ce reportage. On comprend à l'écoute de ce reportage que l'olive et l'olivier sont devenus des emblèmes de la résistance palestinienne. Rappelez-nous-en les raisons.
L'olive est la première production agricole dans les territoires palestiniens. Alors depuis la mi-octobre et le début de la saison de la récolte, vous pouvez voir des familles entières sur leur terrain ramasser leurs olives avant de les ramener à la presse pour en faire de l'huile. C'est un spectacle assez impressionnant, il faut le dire. Les Palestiniens font tout pour garder leurs champs d'oliviers. C'est un moyen pour eux de lutter contre l'expansion des colonies israéliennes. Ce symbole palestinien se transmet de génération en génération, même si on a pu entendre toutes les difficultés qu'ils rencontrent. Un agriculteur m'assurait qu'il récolte aujourd'hui environ 8 fois moins d'olives qu'il y a 20 ans. La faute, en grande partie, aux restrictions imposées par les Israéliens sur ces terres.
Pourquoi est-ce que vous vous êtes concentré sur le nord de la Cisjordanie?
J'ai décidé de rencontrer les agriculteurs dans la région de Naplouse, car c'est une des zones particulièrement denses en oliviers. Tout le nord de la Cisjordanie est recouvert de ces arbres dont les revenus tirés de la production de l'huile d'olive ont un véritable poids dans le budget des familles. Dans cette région, de nombreux champs d'oliviers sont situés en bordure ou parfois même à l'intérieur de l'enceinte des colonies israéliennes. C'est aussi un endroit où les colonies sont particulières. Les Israéliens, installés dans ces implantations juives, sont les plus extrémistes et les plus religieux. J'ai pu en avoir un exemple de cette radicalité quand les jeunes colons ont caillassé les travailleurs palestiniens à quelques mètres seulement de nous et des soldats israéliens. Ces derniers ont mis du temps à intervenir, aucune arrestation n'a été effectuée. Les soldats sont pris entre deux feux. D'un côté, ils doivent assurer l'accès aux paysans palestiniens, c'est leur mission durant la récolte. Mais de l'autre, ils doivent ménager les colons pour qui ils sont présents. Les militaires israéliens que j'ai rencontrés n'étaient pas de mauvaise volonté, mais semblaient finalement un peu dépassés par la radicalité de certains habitants des colonies.
Nicolas, dans votre reportage, on comprend que les colonies sont un obstacle à la paix. Pourquoi cela ?
Il y a aujourd'hui 1,5 million de colons juifs israéliens installés en territoire palestinien, si l'on comptabilise Jérusalem-Est et la Cisjordanie. Malgré les pressions internationales, ce chiffre est en constante augmentation depuis les premières installations à la fin des années 60. Les Palestiniens, eux, ne peuvent que constater les dégâts. Alors qu'ils se battent pour la souveraineté d'un État palestinien, ils voient ces implantations sur le territoire qu'ils revendiquent sabrer leurs espoirs. Dans l'histoire récente, aucun gouvernement israélien n'a lutté contre ces nouvelles installations. La droite israélienne a même encouragé et financé de nouvelles constructions quand elle était au pouvoir. Car les colons ont un vrai poids politique, ils arrivent même à empêcher le démantèlement de certaines implantations illégales au regard du droit israélien. On a le sentiment aujourd'hui que la paix n'a finalement jamais été aussi lointaine dans la région.
Nicolas Ropper, merci. On peut retrouver votre reportage sur RFI.fr. Bonne journée.